Wolfenis ont essayé de me flinguer.
Oui, maître.
C'est pourtant pas leur genre.
Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
France Inter, la voie est libre. Le slogan de la radio d'État leur va comme un gant. À y regarder de plus près, on se demande si le E de voix n'aurait pas remplacé le X. Après des années où se sont incrustés petit à petit le mauvais goût, la publicité et les maîtres du libéralisme économique de Friedman, Thatcher et autres Jean-Charles Naouri, on connaît malheureusement le résultat. Ce n'est donc pas une surprise si l'équipe de Charline Bannonecker a été priée de décarper pire de la tranche horaire la plus bancable des ondes radio, 17h-18h. L'impertinence aura tenu quelques années. Mais ce qui se passait encore sous Hollande n'est plus permis avec Macron. On ne se moque pas ainsi du pouvoir. Certes, l'émission était vieillissante et ses chroniqueurs, Guillaume Meurice en premier, avaient bien du mal à se renouveler. Seuls Wally Dia, Jamil Schlag et Thomas VDB nous feront regretter leur départ. Vous allez me dire, on retrouvera l'émission le dimanche soir. Certes, mais pas sûr de retrouver la fraîcheur et l'originalité des débuts. Pendant ce temps-là, Dominique Seux, Léa Salamé, Nagui, Nicolas Demorand et Sophia Aram parlent toujours. Sur France Inter, il y a longtemps qu'on n'écoute plus la différence. Au terminus des prétentieux, 1063e slogan ce soir, trouve qu'il n'y a plus rien pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles. Rien à cirer par Jupiter, même combat. Sous les 90.0 de Radio B, même Laurent Ruquier nous barba. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à peu près à 18h15 sûrement à peu près pour une émission placée sous le signe de la diversité et de l'ouverture, qu'elle soit musicale, culturelle, vers le monde, vers les mondes. Ce soir, nous nous baladerons pendant une heure à travers le parcours d'une artiste qui sait ce que veut dire voyager. De Vichy à Genève en passant par Clermont-Ferrand, Middlebury, Bellerive, Parme, Vernier ou Valence, la désormais lyonnaise a l'art de toucher à tout. Piano, violon, guitare, mais aussi histoire de la musique et de l'enseignement, prose et poésie, musique impressionniste, en solo, en duo, en trio ou en concerto, à deux ou à quatre mains, avec un brass band, le théâtre, le jazz, directrice musicale, la polyvalence et l'éclectisme, elle connaît. Son amour pour les États-Unis l'a conduit vers le folk. Alors pour une fois, la surdiplômée est chanteuse et autodidacte, c'est elle qui le dit dans sa biographie, hein, je cite, dans ses créations d'inspiration nord-américaine pour lesquelles elle travaille avec le guitariste Loïc Bernard depuis 2015 et la contrebassiste Maeva Sitnik depuis 2017.
Ça, c'est plus d'actualité, mais c'était le cas à l'époque.
Alors, son premier album, Bridges and... Anne Rivers est sorti le... Je pas le même accent que toi.
Ça marche.
Ah, tu m'excuseras. Ok. Bridges... On dit Bridges ?
Oui, voilà. Bridges.
Bridges. Ah, yeah, yeah. Alors, Bridges and Rivers est sorti...
Ne me regarde pas, c'est pas moi l'anglo...
c'est fun,
on va dire.
Alors, son premier album.
Pas anglophile.
Concentrons-nous. Bridges and Rivers est sorti le 3 novembre 2017. Elle récidive le 3 février 2023 avec une deuxième galette, 6 titres, Port... c'est d'anglais, c'est Port ?
Oui,
ah, Port Henry Station.
C'est ça.
Elle est venue nous la...
Bien, Miguel, bien.
Ouais, ça va finir cette histoire. Alors, elle est venue nous la présenter, cette deuxième galette. Et c'est la raison pour laquelle nous accueillons la pianiste, violoniste, guitariste, autrice, compositrice, interprète, directrice musicale et autrice de spectacle. Auvergnate d'origine et désormais oralpine, Clémentine Dubost.
Oui.
Oui. Clémentine, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Alors, tu te revendiques auvergnate ou oralpine ?
Maintenant, on est dans la même région, il me semble. Hein.
Ouais, mais quand même.
Non, auvergnate toujours.
Ah, oui, hein, auvergnate un jour, auvergnate toujours. Hein.
Hein, oui.
J'en sais quelque chose. Bien, allez. Si, c'est vrai.
Oui, je te crois, Michel.
Bien, allez, tu seras avec nous. jusqu'à 18h15 à peu près. Et tu nous présenteras ton univers musical fort riche et ton deuxième album, 6 titres, Port Henry Station, sorti le 3 février 2023. À tes côtés, je te présente mon co-animateur. Alors figure-toi que c'est un grand voyageur.
Ah.
Oui, lui aussi. Alors un jour... Un jour, après avoir abusé, à ton avis, de single malt whisky,
et oui.
Hein, il s'est réveillé dans, à ton avis, il s'est réveillé où ? Dans les Adirondacks.
Ah.
Eh ouais. Un ange déchu qui cède à l'appel des sirènes, sans doute. Alors, arrivé à la gare de charpentier de Port Henry, hein, faite de cendres et de bois, a priori.
Semblerait
un tremblement de terre.
Ah.
Eh ouais. Tant pis, j'irai à pied, se dit-il. Je me débrouillerai tout seul. Alors, tout en douceur, hein, je me baladerai à travers ponts et rivières. Je serai de retour à la maison pour jeudi 17h pour l'émission. Hein. C'est pour te montrer à quel point je tiens à toi. Si c'est pas de l'amour.
Bonsoir. J'adore.
Bonsoir Michel, bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, t'as encore fait très très fort en traduisant des titres anglais.
Ouais, ça va, je me suis bien débrouillé. On a tout retrouvé là.
Bravo. Oui.
Bon, puis il y avait une queue, enfin une tête, on va dire, dans ton histoire.
Une inversion.
Ouais, non. Ah. Non, je sais pas.
L'histoire, ça se termine bien.
Non, ça se tient, quoi. Des fois, quand tu fais des histoires comme ça, on comprend rien. Mais là, il y avait une petite trame. C'est pas mal.
Ouais, mais Tonio rêve beaucoup. Donc,
quand il se passe des choses,
je te raconte pas.
Des fois, c'est limite cauchemar. Mais, quand je les comprends pas, forcément, c'est du cauchemar.
Bah oui, ouais. Ah,
bon. Allez, vamos.
Voilà, c'est vamos, ça. C'est pas let's go, c'est vamos.
Vamos.
Ooh, 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 always be entirely. Oh, why do you weep, my fair young maid? Live for your golden soul. Oh, do you weep for your home's carpenter? And never you shall see any.
Joan Baez, Bob Dylan, Pete Seeger, Nathalie Merchant, Clémentine Dubost, Doug Watson, bah oui, hein, David Grishman, Damian Jurado, Paul Simon, The X, Tony Rice, Mercure, Fish, Chercher l'intrus. Alors, si je vous dis que House Carpenter voilà, est une chanson traditionnelle écossaise, qu'elle a été reprise par les plus grandes et les plus grands, très souvent reprise dans tout le monde anglo-saxon, sous divers titres, hein, The Demon Lover, James Harris, The House Carpenter, décidément. Vous me répondrez, vous auriez dit quoi, vous ?
Je ne sais pas. Qui parmi les gens cités n'a pas repris cette chanson?
Voilà. Ben parce que quand je parle de chansons traditionnelles écossaises, tout de suite, les fans de rock prog des années 80, donc c'est-à-dire pas vous, penseront au chanteur de Marie Lyon qui s'appelle Fish. Eh bien, c'est lui. Oh. C'est Fish. C'est un piège.
Ross Stewart, il n'est pas écossais?
Si, mais il n'a pas.
Il n'a pas repris.
Mais
moi, j'avais un écossais, mais pas le bon.
Donc oui, Fish, l'ancien chanteur de Marie Lyon, n'a jamais interprété House Carpenter. C'est un gros piège, hein, parce que bon, faut le savoir. Hein. Certes, il est écossais, je disais, mais il n'a jamais roulé des airs sur cette chanson traditionnelle du milieu du XVIIe siècle. Au contraire de Clémentine Dubost, notre invitée de ce soir. Eh oui, qui n'est pas l'intrus. Hein, elle se trouve en très bonne compagnie. Hein.
Tout à fait.
T'aurais pu dire, toi, l'intrus?
Oh bah, j'aurais pu, oui, parce qu'il me semble que toutes les personnes citées, il n'y en a pas beaucoup qui viennent d'Auvergne.
C'est sûr. À moi, il y a des origines. Hein.
On ne sait pas.
Je ne sais pas si les Auvergnats ont bien traversé l'Atlantique.
Ouais, je ne sais pas.
Ça coûtait trop cher le voyage pour eux, je pense.
Ceci dit, il existe un Vichy aux États-Unis. Toutes les villes d'Europe existent aux États-Unis. Donc,
D'accord. Là, ça ressemble au Vichy français, malheureusement.
Je ne sais pas. Je n'y suis pas allée.
D'accord. Alors, donc, sur le blog de Jean-Marie Meillant, un ultra-gauchiste suisse, hein, si, c'est pas antinomique, la chanson est décortiquée. Alors, l'histoire de House Carpenter est la suivante. Un homme, après un long voyage, revient vers celle qu'il aimait, mais qui, entre-temps, a épousé un charpentier, Carpenter, et a eu de lui un enfant. Jusqu'à présent, là, jusque-là, ça va,
hein. Mm-hmm. Oui.
Donc, l'homme lui demande de partir en mer avec lui.
T'aimes bien les histoires,
Adam.
Ce soir. Hein.
Ouais. Donc, il vainque, c'est beau, ça. Ses hésitations, c'est pour moi, hein, ses hésitations en lui promettant richesse et pouvoir. La jeune femme abandonne alors son mari et son enfant. Au bout d'un certain temps, elle se met à regretter sa décision et à pleurer sur l'enfant. Mais bientôt survient une tempête et le navire coule en menant la jeune épouse dans la mort. Une version assimile le voyageur au diable. Et effectivement, face à la promesse qu'il fait des richesses et du pouvoir, on pense au diable tentant le Christ. Alors, belle, triste, terrible chanson dans laquelle on voit que l'esprit populaire veut effrayer celles et ceux qui, par la richesse et le pouvoir, veulent se hisser au-dessus de leurs conditions, alors que notre société a fait une vertu de la soif d'enrichissement. Clémentine, pourquoi avoir repris cette chanson sur ton premier album sorti en 2017, Bridges and Rivers? Pourquoi?
Déjà parce que je la trouvais très belle. Moi, c'est la version de John Baez que j'écoutais beaucoup et que j'aimais beaucoup. John Baez m'a beaucoup accompagnée dans ma vie et surtout dans les premières années où j'ai écrit des chansons. Donc, c'était pour moi une manière de lui rendre hommage aussi. Et c'est une chanson. J'aime beaucoup cette histoire qui est très sombre et qui... J'aime bien les histoires un peu sombres. Ça revient dans mes chansons aussi.
Sombre ou triste ou nostalgique?
Les trois.
Hein.
mais pas que.
Non. Oui. Tu parles d'alcool aussi quand même.
Ouais. Oui. c'est qu'un prétexte.
Voilà. Ça peut être triste et sombre et grave.
Aussi. Tout à fait.
C'est une chanson traditionnelle écossaise qu'on retrouve du côté des Appalaches. Lors de tes voyages à Middlebury, tu l'as entendue interprétée par d'autres, cette chanson?
Non, à vrai dire, je ne l'ai jamais entendue interprétée en live. Par contre, il faut savoir qu'à Middlebury, il y a des bouts des Appalaches, puisqu'on en parle. Mm-hmm. Mais pas de House Carpenter. En tout cas, il y a des House Carpenters, mais il y a certainement des gens qui chantent la chanson aussi, mais je ne les ai pas rencontrés.
D'accord. Alors, on retrouve de nombreuses chansons traditionnelles dans le folk, le bluegrass, le country ou l'americana. On en retrouve 5 dans la BO de Oh Brother, dont une signée Emilio Harris, Alison Krauss et Gillian Welch. Quelle place ce film et cette bande originale ont chez toi?
Alors, Oh Brother, c'est pas la bande-annonce, c'est le film que j'ai le plus écouté et regardé.
Ah ouais.
Par contre, puisqu'on parle de BO, par contre, Inside Llewyn Davis, par contre, m'a beaucoup marqué, et pour sa bande originale et pour son histoire, qui d'ailleurs est moins comique que Oh Brother, et qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je joue régulièrement en concert la chanson Hang Me, qui inaugure d'ailleurs la bande originale du film Inside Llewyn Davis, donc des frères Cohen.
D'accord.
Qui relate l'histoire d'un songwriter américain dans les années 60 et pour qui ça se passe un peu moins bien que pour des Dylan ou autres chanteurs folk à succès de cette époque-là.
D'accord. Le 23 mars dernier, nous accueillions deux des fleurons du folk americana bluegrass français, Glenn Arzel et Claire Nivard. On parlera de Glenn tout à l'heure.
Oui.
Tu connais forcément Claire, c'est quelqu'un que tu apprécies?
Beaucoup, oui. Je l'ai rencontré par sa musique d'abord, par son duo avec Glenn. Et il se trouve que j'apprécie aussi beaucoup la personne. Il se trouve que j'ai bu un verre avec elle la semaine dernière. Donc...
Claire et toi avez au moins un point commun, votre amour pour la scène.
Oui, la musique.
Oui, au moins un, oui, c'est
oui, oui.
Au moins un. Et le théâtre en particulier.
Et c'est vrai, ça fait un point commun.
Alors, t'aurais aimé prendre sa place dans le spectacle de Xavier Simonin, les raisins de la colère, pardon.
Prendre sa place, non, mais pourquoi pas être à ses côtés, oui.
À la guitare?
À la guitare, oui. Comme musicienne. Mais bon, je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi, de toute façon.
Je sais pas, t'as demandé, non?
Non, j'ai pas demandé. Ah, non, je crois qu'ils sont très très bien, comme
d'accord.
Ils sont.
Est-ce que t'as déjà repris du Gillian Welch, du Emilio Harris ou du John Baez sur scène? Bah oui, sur scène. Bah oui, John Baez, oui,
elle a beaucoup chanté des reprises, donc j'ai beaucoup chanté des chansons.
Des reprises.
Elle a chanté en fait beaucoup de chansons traditionnelles, donc oui, j'ai chanté les mêmes qu'elle. Après, Gillian Welch, j'ai beaucoup, beaucoup écouté récemment. Ça a été une de mes grandes rencontres musicales de ces dernières années. Et j'ai jamais encore chanté de ses chansons à elle sur scène. Mais pourquoi pas? Peut-être un jour.
Emilio Harris?
Ça, je suis moins... je pense que c'est un peu plus Americana. C'est moins mon univers. Bah, je ne connais pas très très bien, à vrai dire. J'ai écouté un peu, mais... Par contre, je chante beaucoup de Jolene, dans le style un peu plus Americana, de Dolly Parton.
Ouais. Alors, le folk Americana Bluegrass, c'est aussi une histoire de femmes. Ben, la preuve, hein, oui. On en parle. Toi qui connais bien le genre et le pays qu'il a vu naître, alors quelle est la place de la femme dans ce genre musical ?
Bah, j'ai pas fait une étude sociologique non. sur la question,
j'imagine.
Mais effectivement, il y a beaucoup d'icônes, il y a quand même beaucoup d'icônes masculines. Les chansons traditionnelles qui sont reprises, ce sont souvent des héros hommes. Mm-hmm. D'ailleurs, là, j'aimais bien aussi que dans House Carpenter, il y a une femme dans cette histoire. Bon, il y a des femmes dans les histoires contées dans le folk, mais disons, les héros sont souvent des hommes. D'ailleurs, récemment, j'ai écrit une chanson qui voulait contrecarrer un peu ça et dont l'héroïne est une femme. Et quand j'ai commencé à écrire cette chanson, je voulais une vraie héroïne folk qui voyage, qui boit, qui joue. Et puis très rapidement, en fait, au fur et à mesure que j'ai écrit la chanson, j'ai voulu glisser toutes les petites choses qui font que c'était difficile en fait d'être une vraie héroïne d'histoire folk. Et peut-être vous découvrirez un jour la chanson et vous pourrez voir un peu mieux ce que j'en dis dedans.
D'accord.
Mais je dirais que la place des femmes et des hommes dans ces histoires-là n'est pas la même. La preuve, là, dans cette histoire, House Carpenter, la femme, c'est intéressant l'analyse que vous en avez donnée, parce que pour moi, le démon dans cette histoire, c'était plus la femme elle-même, mm-hmm. qui se laisse séduire et qui abandonne en fait son mari et son enfant, et qui on le sait bien, hein, ça porte malchance, hein, d'avoir une femme à bord d'un navire, donc elle cause sa propre perte mais aussi celle de tous ceux qui sont sur le navire. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, la femme, la place des femmes et des hommes, ouais, dans les histoires folk ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a beaucoup de, je pense que ça va évoluer avec le temps, je l'espère, en tout cas des chanteuses comme Gillian Welch, ouais, je trouve, ne sont pas sont des chanteuses qui auraient pu être des chanteurs, en fait. Voilà, qui, dans ce qu'elles portent, je trouve ça très inspirant, en fait.
Ouais. Je pensais au départ plutôt à la place de,
oui,
de la femme en tant que chanteuse.
Oui, des musiciennes elles-mêmes, bien sûr.
Alors justement, c'est pas facile pour, j'imagine, comme dans tout au genre, pour les femmes de s'exprimer dans ce monde, la musique. Cette inégalité de sexe est également le cas dans la musique classique.
Oui, on essaye d'y remédier. On fait attention à ce qu'il y ait le même nombre de femmes et d'hommes dans les orchestres. Ouais. Maintenant, c'est sujet à débat et à conflit, bien évidemment. Mm-hmm. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de chefs d'orchestre, parce que c'est vrai que c'est un peu un problème, quoi, de se rendre compte que l'essentiel des orchestres étaient presque tous dirigés par des hommes. Donc oui, évidemment, le problème est partout. Mm-hmm. Et les compositrices sont encore sous-représentées dans les programmes de concert. Donc bon, tout ceci est appelé à être modifié, j'espère, à être amélioré. Mais, encore, le problème est partout. Hein.
Encore un combat de plus. Bien, allez, il est l'heure de prendre le train. Hein, on va prendre le train en direction de New York ou de Montréal, hein, ça dépend dans quel sens on ira. Le terminus, ce sera Port Henry Station. Son nom, on l'appellera Les Prétentieux. Eh bien, il est 17h passé de 37 minutes sur les 90.0 de Radio B, ou alors Tonio.
Ou alors vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h, ou celle du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste auvergnate d'origine et désormais lyonnaise de cœur, Clémentine Dubos, qui a sorti le 3 février 2023 son deuxième album, 6 titres, Port Henry Station. Alors, sur ton site internet, il est précisé que tu es pianiste, auteur, compositrice, interprète, directrice musicale et auteur de spectacles. Et de rajouter, je cite, artiste polyvalente et éclectique.
Tu es tombé... C'est un peu lourd. Hein, tout
c'est
ça.
Un peu lourd. Même si c'est vrai.
Un peu pompeux.
Ouais, mais c'est vrai.
Bah, oui, c'est vrai, heureusement. Bah oui, Si en plus c'était faux.
Voilà.
Pourquoi le mettre, sinon?
Oui, pourquoi le mettre? Donc toi, tu es tombé dans la musique toute petite, j'imagine, parce que chez les Dubost, c'est dans les gènes?
Oui. Bah, mes deux parents sont musiciens, donc c'est vrai que j'ai toujours entendu de la musique, et puis de la musique assez variée, puisque ma mère est violoniste et mon père guitariste de différents styles, on va dire. Et il y avait un piano chez moi, donc c'était un peu une évidence, en fait, d'aller vers le piano. J'ai aussi donc appris le violon, et puis plus tard, la guitare.
D'accord. Voilà. Donc un parcours musical, est-ce que c'est un parcours scolaire essentiellement musical ou
Non, j'ai une scolarité tout à fait normale, avec un bac littéraire. Ouais.
Sans faire d'études musicales à côté, bah si.
J'étais au conservatoire par ailleurs, mais disons que ça n'avait pas d'ambition immédiate à se professionnaliser. Voilà, il n'a jamais été question de faire de moi une musicienne professionnelle jusqu'à ce que je le décide après mon bac.
D'accord.
D'ailleurs, ça n'a pas été une décision évidente non plus. J'ai pas mal cherché, douté, hésité. Et à la fois, une fois que j'avais pris cette décision, c'était comme si c'était une évidence depuis toujours.
D'accord.
Mais
en dirigeant de quel côté? Vers quel genre? Vers quel instrument en particulier? Vers quel style en particulier Parce que là, la musique,
c'est vaste.
C'est vaste,
bien
la
sûr,
musique.
Bien sûr. Ouais. Bah, moi, j'ai eu une éducation classique par le biais du conservatoire. Et le piano était l'instrument vers lequel je me dirigeais avec le plus de naturel, puisque c'est vrai que le violon, jouer tout seul, c'est un peu difficile. C'est magnifique en orchestre ou quand on joue avec les autres. Mais j'aimais bien ces moments solitaires que j'avais de dialogue avec mon piano, de rêverie parfois. Et je me suis passionnée dans mes années de lycée pour une partie du répertoire pianistique classique, mais j'avais toujours aussi improvisé dans mon style à moi, j'avais toujours écrit des chansons, donc j'avais ce contact multiple à la musique, j'avais toujours écouté des musiques traditionnelles, des musiques jazz, et au lycée d'ailleurs j'ai découvert la musique folk nord-américaine.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de me mettre aussi à la guitare, parce que écrire des chansons au piano pour moi c'était pas dans le style, c'était pas ça que j'avais vraiment envie de chanter avec une guitare.
Ah ouais, d'accord. Donc après un parcours universitaire qui est ce qu'il est, je pourrais en rajouter. Des diplômes, quelques diplômes, quelques belles écoles, et puis la suite, c'est quoi la suite? Alors après l'école, il faut bien concrétiser tout ça.
C'est partager tout ce sur quoi on a travaillé pendant des années. Et le plus dur, savoir le vendre.
Ouais,
ça, c'est ce qui est douloureux, parce que c'est vrai que pendant ces années d'études, on apprend à jouer, on apprend à interpréter, à comprendre ce qu'on fait, comment le faire. Et on apprend à être de très bons musiciens, mais on ne nous apprend pas après à diffuser en fait notre art, et ça c'est assez compliqué. C'est pour ça que dans un premier temps j'avais plutôt choisi assez, pas par défaut mais assez naturellement on va dire, la voie de l'enseignement, que j'ai mis de côté depuis quelque temps pour essayer justement de me consacrer à tous mes projets artistiques, parce que j'avais pas envie de faire de sacrifices. Je voulais bien sûr rester pianiste classique et avoir continuer à défendre toutes les formations sur lesquelles je travaille, en duo ou dans d'autres formations. Et j'avais toujours envie de faire de la musique folk, j'avais envie que ce projet puisse se professionnaliser aussi. Et comme vous l'avez dit un tout petit peu en début d'émission, comme j'écrivais des spectacles, j'avais aussi envie d'explorer cet aspect de ma créativité. Donc je me suis dit, en fait, tout ça n'est pas forcément compatible avec un temps plein d'enseignement. Mais surtout, je me suis dit, ça peut être possible, en fait, de vivre de tous ces projets-là. Mais il faut apprendre à le faire. Et c'est vrai qu'il faut devenir un peu des auto-entrepreneurs de la musique. Et je crois que les artistes, on n'est pas préparés à ça du tout. On n'est pas formés à ça. Et on n'a pas forcément le tempérament pour. Et il faut se faire violence un peu. Pour ça.
Donc différentes expériences musicales, hein, et de création. Alors, Madame Schumann, Marin Manqueur, ça c'est plutôt avec ton piano ?
Oui, exactement. Oui, ce sont des spectacles que j'ai créés. Marin Manqueur en 2017, c'est à partir d'œuvres pour piano à quatre mains. Donc, parce que j'ai un duo de piano à quatre mains, duo Ondine. Mm-hmm. Et on a donc créé ce spectacle avec le collectif qu'on a fondé, avec des comédiens, comédiennes. Et à partir de l'œuvre littéraire de Eugène Savitskaya, donc Marin Manqueur. Et Madame Schumann, là, c'est une pièce de théâtre musicale à partir des œuvres de Clara Wieck Schumann et à partir de ses correspondances et de ses journaux intimes. Donc, c'est la vie de cette femme qui était Clara Schumann. Voilà, ce sont les deux spectacles que j'ai créés ces dernières années.
Alors si je te dis, on déborde un petit peu, et un duo de jazz, The Funny Valentines.
Oui, ça c'était en 2013 que j'avais créé ce duo. J'aimais énormément chanter aussi ce répertoire de standards de jazz. Je suis une grande fan de Ella Fitzgerald. Oui, je suis assez old school dans mes références. j'aimais énormément le jazz vocal de ces années-là, encore plus. Mais c'est un projet qui n'existe plus actuellement. Peut-être un jour, je rejoindrai un autre projet, un autre groupe de jazz. Mais pour le moment, je n'en fais plus.
Un duo avec Claire Nivard. Elle aussi, il n'y a pas un petit peu de...
Oui, un petit peu de jazz.
Tout ça. Pourquoi pas ? Voix de femme.
Pardon ?
Voix de femme.
Oui.
Ça te parle ?
Voix de femme.
J'ai lu ça.
Ça me dit quelque chose.
Ouais. tu n'en parles pas, d'accord. Bien.
Non, qu'est-ce que c'est ?
Bah, je pensais que c'était un de tes projets.
Un de mes projets actuellement en voix de... Ah oui, avec Amélia Foya, pardon.
Oui, oui.
Oui, c'est effectivement le titre qu'on avait donné. Oui, on a travaillé sur des... Oui, bien sûr.
Surtout, c'est pas moi.
Je sais pas, spontanément, je me suis dit, tiens, c'est une revue, une rubrique.
Non.
Oui, effectivement, on a travaillé sur des compositrices de la Belle Époque, françaises et pas que. D'ailleurs, Amélia Foya a fondé, créé un très beau festival qui est consacré aux artistes et compositrices femmes, qui a lieu tous les ans début septembre à Courbevoie. Je fais sa pub. Voilà, c'est un projet qui est un peu de côté en ce moment. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de faire diffuser ce répertoire actuellement. Par contre, dans mes projets actuels, il y a une nouvelle création qui est en cours, qui est un conte musical, cette fois dont j'écris la totalité, et le texte et la musique, et c'est pour piano et récitant. Donc c'est la première fois que je me lance depuis longtemps dans la composition au piano, parce que je suis essentiellement interprète en tant que pianiste depuis des années maintenant, et je pense que c'est un peu une déformation due à mes études. On a tellement de respect pour ce qui est déjà écrit pour l'instrument, que c'est assez difficile de se dire, allez, moi aussi je vais écrire quelque chose. Et là, j'avais cette inspiration d'écrire un conte. C'est une fable écologique jeunesse.
D'accord.
Qui s'appelle La plume d'or de l'oiseau Phébus. Voilà, et c'est un conte musical que j'espère, dont j'espère achever la création là, dans la saison prochaine.
D'accord. Voilà. Bon, et le folk dans tout ça ? Quand c'est qu'il est arrivé au point de dire, de frapper à la porte et dire, bon, j'ai des chansons maintenant, il faut que je les sente, puis je les enregistre et puis que j'en fasse un album, ce qui était le cas de Bridges and Rivers.
Bah, effectivement, c'est difficile de se faire, de s'affirmer en tant qu'auteur, compositrice, interprète sans avoir d'enregistrement. Donc, c'était la première raison d'être de Bridges and Rivers en 2018. C'est sorti, je crois.
Sur Bandcamp, ça marquait 3 novembre 2017, c'est pour ça.
D'accord.
Ouais. Enfin,
peu importe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'avais déjà écrit énormément de chansons. J'en avais arrangé une...
En anglais, toujours ?
Oui, en anglais. Ouais. J'en avais arrangé une bonne partie avec Loïc Bernard, que vous avez entendu là dans l'extrait House Carpenter, et dans tout mon premier album d'ailleurs. C'est le deuxième guitariste. Et c'est vrai que c'était, disons, un premier pas pour dire, voilà, j'écris des chansons, c'est un projet folk, le voici. Après, le projet a un peu évolué, j'ai voulu qu'il sonne vraiment plus folk, plus d'inspiration nord-américaine, justement. C'est pour ça que je disais que c'était plus d'actualité, puisque je ne joue plus actuellement avec Loïc Bernard, qui lui est un musicien, un très bon guitariste, hein, mais qui vient d'un peu d'autres horizons. Et je me suis rapprochée de gens qui sont plus dans le milieu folk nord-américain, comme Glenn Arzell, qui a réalisé donc les arrangements de mon nouvel EP, voilà, sorti en février, et avec qui je me produis sur scène aussi depuis... Voilà, il est polyinstrumentiste, et donc il y a du banjo, il y a de la guitare résonateur, de la mandoline, et ça apporte encore une autre couleur à mes chansons.
Bien, qu'on va écouter tout de suite, hein, avant de,
oui,
de parler de ce deuxième album, qui est pour nous un album, parce que ces titres, pour Denis Rêver, à partir de ces titres, un album. Donc,
D'accord, donc, il me semblait que c'était le temps, donc c'est vrai qu'on est, je crois qu'il dure 26 ou 28 minutes, donc on est à la frontière avec l'album, je crois que c'est à partir de 30 minutes qu'on parle d'un album, mais ça...
Bon, ça dépend, mais c'était Denis Rêver qui le dit, on peut lui faire confiance. Ouais. Hein. Tonio,
On va écouter le premier titre qui ouvre ce disque.
Ah oui.
Donc c'est The Siren's Call, un extrait de Port Henry Station, Clémentine Dubost.
Might yearn for this prison where people seem to shine with gold. So run, run, run from the siren's call.
Eh bien voilà, ça discute, ça discute.
En attendant. Ah bah oui, bah c'était.
Non, non, mais c'est pas grave. Je
The Siren Call. The...
Ah, ah, voilà, voilà. C'était très philosophique en plus. On parlait du temps qui passe. Voilà.
J'ai mis un S à quoi ?
Non, non, c'est moi qui l'ai pas mis en fait. Donc c'était The Siren's Call. Un extrait de l'album ou l'EP, ça dépend, vous voyez. Hein. Port Henry Station. De Clémentine Dubost.
Qui est avec nous ce soir, voilà. Donc, alors pour nous, un deuxième album qui fait suite au premier, Bridges and Rivers, qui datait de 2017-2018. Donc, c'est que ça, quand même, 5 ou 6 ans après.
Eh bien, oui, il y a pas mal de temps.
Il fallait bien tout ça.
Il fallait bien tout ça parce que c'est vrai qu'après, j'ai fait pas mal tourner les chansons de Bridges and Rivers sur scène. Puis, bon, évidemment, petit à petit, j'ai écrit des nouvelles. Déjà, assez rapidement après, en 2019, en 2019-2020.
Puis le Covid est arrivé.
Oui, il y avait la matière pour, mais bon, il y a eu le Covid. J'ai commencé à faire pas mal de reprises, faire des vidéos seules. Voilà, il y a pas mal ça dans ma chaîne YouTube. J'ai appris pendant ces années de Covid à m'enregistrer, à filmer, à faire du montage vidéo. J'ai beaucoup aimé, c'est un côté très artistique qui me plaît beaucoup. Et puis, je me suis commencé à me dire en 2021, après, bon, là, il faut vraiment que j'enregistre un nouveau disque, mais je ne savais pas encore vraiment... Où, avec qui, comment. Je savais que je voulais quelque chose de différent d'avant, mais donc il m'a fallu le temps d'évaluer un petit peu la situation, et puis de contacter Glenn Arzel, et puis de commencer le travail. En fait, on a commencé à enregistrer automne-hiver 2021, finalement. Et on a fait les mix en mars 2022. Et puis après, je savais que je voulais être distribuée, être soutenue par un ou une attachée presse. Donc, c'est pas mal de démarches qu'il faut effectuer avant de définir une date de sortie. Donc, effectivement, ça prend du temps. Et donc, voilà, février 2023, ça a été le moment où, enfin, le P est sorti.
Le 3 février. Mm-hmm. Alors, pourquoi Glenn Arzel et comment s'est passée la rencontre ? Enfin, la rencontre avec Glenn Arzel.
C'est vrai que c'est un des rares points positifs des réseaux sociaux, c'est que j'ai découvert le travail de Glenn par le biais de Instagram ou Facebook, je ne sais plus, mais en tout cas, disons qu'on avait des contacts en commun sur le milieu musical lyonnais, et j'ai découvert son travail comme ça.
Et tu ne le connaissais pas ?
Je ne le connaissais pas personnellement du
D'accord.
tout. Non, non. Et je me suis dit, j'adorais ce qu'il faisait avec Claire Nivard. Je me suis dit, j'ai vu qu'il jouait de différents instruments. Et je me suis dit, ça serait vraiment super pour mon disque. Donc, je l'ai contacté. Il a écouté mon premier album, les vidéos que j'avais en ligne. Et puis, il m'a dit, écoute, oui, ça me botte bien. Je lui ai envoyé les maquettes de mes... dernière chanson, il y en avait 12 initialement, donc c'est pour ça que je dis oui, plutôt EP qu'album. On a dû faire une sélection drastique, pas pour des questions artistiques, mais pour des questions budgétaires,
D'accord.
tout simplement.
D'accord.
Et donc voilà, on a commencé à travailler sur les arrangements ensemble et ça s'est très bien passé. C'était une belle expérience et depuis, on travaille régulièrement ensemble pour la scène. Mais j'en suis très contente.
Donc, le titre de l'album, donc c'est Port Henry Station. C'est pas n'importe quelle gare, cette...
Non.
Cette gare Henry Station.
Non, c'est pas par hasard, ce
c'est
titre.
Pas par hasard.
C'est une gare bien précise.
Mais oui.
Et alors, Port Henry Station, c'est où ? C'est effectivement une toute petite gare perdue dans l'État de New York. Coincé entre le lac Champlain et les montagnes des Adirondacks, on les a déjà évoquées. Et il se trouve que je suis descendue, en fait, une seule fois dans ma vie à cette gare. C'est un de ces étés où je travaillais toujours, puisque j'y vais chaque été, sauf en 2020, bien sûr. Et donc, c'était d'ailleurs en 2019. Donc, je suis allée jusqu'à Middlebury College, où je travaille l'été par le train. J'ai atterri à New York. J'ai pris à Penn Station. Et c'est toute une aventure de prendre le train aux États-Unis. Donc, j'ai pris ce train qui m'a déposé à Port Henry Station, qui était la gare la plus proche du Vermont où je travaille. Et c'est vrai que c'est... les États-Unis en dehors des villes, c'est vraiment toute une aventure. Bon, en France aussi, hein, mais il y avait quelque chose d'un peu magique de descendre à cette gare. Et bon, c'est toujours un peu magique d'arriver là-bas de toute façon. Et c'est l'anecdote que je donne à chaque fois, c'est que presque à chaque fois où je suis arrivée dans le Vermont, il s'est mis à pleuvoir. Et en 2017, je suis arrivée pour la première fois en bus. Cette fois, je venais de Montréal. J'arrive à Middlebury, je connaissais rien, ni personne, ni je savais pas où aller. Je descends du petit bus qui m'avait déposé là et il se met à pleuvoir des cordes et j'avais été là avec tous mes bagages et pas de parapluie évidemment à recevoir cet orage énorme. Et il y a une Vermontoise, j'imagine, qui m'a vue et qui m'a offert son parapluie et qui est partie, elle, sous la pluie, rentrer chez elle. Et c'était un très beau geste de bienvenue qui, en plus, m'a fait penser à la chanson de Bob Dylan, A Shelter from the Storm. Et il se trouve qu'en 2019, voilà, je suis descendue à la gare de Port Henry Station et il y avait presque personne qui descendait à cet arrêt-là. Il n'y a pas beaucoup de gens déjà qui prennent le train, mais
c'est tout petit, hein.
Et oui, puis il n'y a rien, il n'y a même pas de quoi s'abriter de l'orage, justement. Et là, même scénario, il se met à pleuvoir et la personne qui venait me chercher tardait un peu. Et une Vermontoise me dit, mais venez dans ma voiture, vous abritez de l'orage jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. Donc c'est... Je raconte ça avec tendresse pour dire mon attachement aux gens de ces lieux, à ces lieux eux-mêmes aussi. Et cette chanson, en fait, c'est un hommage aux étés que je passe depuis 2017 en Nouvelle-Angleterre, aux gens que j'ai rencontrés là-bas, aux voyages, aux expériences que j'ai vécues. C'est pour ça que cette chanson est devenue la chanson éponyme de mon CD, puisque le CD entier est un hommage à la musique nord-américaine et à moi, les expériences que j'ai pu faire là-bas aussi.
Chaque chanson est un voyage.
Je pense que ça vaut pour toute la musique, oui.
Mais là, il y a 6 chansons.
Oui.
Est-ce qu'elles sont, elles ont un rapport les unes entre elles? C'est une histoire que tu racontes, une histoire qui se suit ou pas forcément?
Pas forcément. Après, on peut.
Comme nous l'anglais.
Vous aimez bien faire des histoires comme au début de l'émission, qu'il y a des liens entre les chansons.
Oui, mais en français c'est mieux. En anglais, c'est compliqué.
Oui.
J'ai pas cherché à traduire.
Bon,
à part le mot whisky, mais bon. Voilà.
Non, les chansons, elles ont été écrites dans des contextes très différents, sans penser les unes aux autres.
Ouais.
Après, effectivement, quand j'ai pensé leur suite logique, c'était pas forcément pour raconter une histoire, mais parce qu'elles s'enchaînaient bien les unes aux autres et qu'il y a un voyage musical, en tout cas, qui se fait d'une chanson à une autre. Après, pas nécessairement un voyage narratif. Mais l'unité, je pense qu'elle est dans les sources d'inspiration, dans les thématiques abordées. Oui, là, il y a une unité.
C'est un album que tu aurais aimé enregistrer là-bas, j'imagine?
Ça
apporterait quelque chose de plus finalement ou pas?
Je sais pas. C'est un fantasme, je pense, de se dire je vais enregistrer aux États-Unis, ça sera...
À Nashville, c'est ça?
Ah oui, ouais. Oui, c'est ça. En plus, il se trouve que le clip qui a été fait de la chanson Port Henry Station, c'est pas l'audio de l'EP qui est sur ce clip, c'est une version que j'ai faite justement à Middlebury. Donc j'ai enregistré dans le petit studio de l'université, c'était assez marrant comme expérience. La qualité n'est pas incroyable d'ailleurs, mais bon, ça a le charme justement d'avoir été fait là-bas, mais voilà, ça n'apporte rien d'autre qu'une jolie histoire à raconter, voilà, que j'ai enregistré ça là-bas, et puis on a tourné le clip sur les lieux, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la Nouvelle-Angleterre, le Vermont, et tous les lieux dont je parle dans la chanson, le clip est très beau, j'aime beaucoup.
Très nature, hein.
Oui, c'est en pleine campagne.
Oui. C'est... Il y a 1150 habitants, donc forcément.
Oui, mais je pense qu'il y en a le double d'étudiants.
Ah ouais.
Oui, parce que c'est assez surprenant d'ailleurs, grand campus.
Port Henry.
Port Henry Station.
Okay,
non,
d'accord.
Là où je travaille à Middlebury, parce qu'en fait je.
Ah pardon.
La fois où je suis à... Oui, quand je suis arrivée à Port Henry Station, j'avais rien à faire. Port Henry. C'est juste un lieu de transit pour rejoindre Middlebury, là où je travaille l'été, qui n'est pas dans l'état de New York, mais dans le Vermont.
Où il n'y a pas de gare.
À Middlebury. Eh bien, si, justement. Ah bah, et d'ailleurs, c'est.
Mais c'est pas le même train.
Non, c'est pas le même train. Non, ce qui est rigolo, c'est que là, ils sont en train de remettre en marche tous ces trains. Parce que c'est vrai qu'il y a un réseau de chemin de fer exceptionnel. Et maintenant, le train qui relie New York à Montréal va s'arrêter à Middlebury. Ah. Donc, c'est assez exceptionnel. Parce que moi, j'ai écrit la chanson Port Henry Station, parce que c'est ça que j'avais connu et vécu. Mais en fait, maintenant, je pourrais mettre Middlebury. Ça.
Ce sera le titre de ta prochaine chanson.
Peut-être, bon, on va éviter de faire du.
Ou alors Amtrak. Ou alors Amtrak.
Oui. Ouais. C'est vrai que ça sonne toujours mieux hein, en anglais, que ce soit la gare de Port-Henry ou SNCF. C'est vrai que c'est moins glamour comme ça titre moins de
rêver.
Chanson.
Ça fait moins rêver. Y a une chanson qu'on va. Il y a un autre clip hein, qui est Waking in the.
Ouais, mais... Tout le monde bug sur cette chanson, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, donc je vous en veux pas du tout.
Adirondack, mais.
Oui, Waking in the Adirondacks.
Voilà, on va l'écouter, puis on va en parler après.
Volontiers.
Voilà, cet extrait, donc, du. Ouais, bah, pour nous, le deuxième album, allez, si. De Clémentine Dubost. Clémentine, alors
hein. Pourquoi pas.
Ouais, ok. L'album s'intitule. Port Henry Station, le deuxième morceau de ce soir, Waking in the Adirondack.
Adirondack.
C'est indien, ça, c'est pour ça ?
Oui. C'est amérindien.
On parle très mal l'indien. Jacques Langer. Et on ne parle même pas sur la torture. Allez hop, c'est parti. Clémentine Dubost.
Singing.
Clémentine Dubost, Waking in the Arridondax. Se réveiller dans les montagnes d'Arridondax, ça fait quoi?
Bah, c'était un moment magique et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai écrit une chanson. Ouais. C'était donc là, pour le coup, les montagnes des Adirondacks sont dans l'état de New York, pas dans le Vermont, mais j'y ai passé un week-end au cours du premier été où j'ai travaillé aux États-Unis. Et j'avais loué un van et j'ai passé donc la nuit au milieu des montagnes. Et au petit matin, il y avait cette lumière dorée sur les cimes qui était magnifique. Et puis la nature est vraiment donne très rapidement une impression d'être vraiment sauvage, en fait, quand on est aux États-Unis. C'est vrai que ça donne pas les mêmes... C'est pas les mêmes sentiments d'espace quand même. Et pourtant, c'est pas les grands espaces, la Nouvelle-Angleterre. C'est pas l'Ouest américain que j'ai eu l'occasion de parcourir ensuite. Mais... Et pourtant, il y a quand même ce sentiment de gigantisme, l'étendue des forêts, des lacs. Je pense que c'est aussi, comme le pays est très grand et qu'il est beaucoup moins habité qu'ici en Europe, c'est ça aussi qui donne pas le même sentiment, parce qu'évidemment qu'on a un sentiment de nature quand on est au milieu des Alpes ou au milieu des volcans d'Auvergne par exemple. Mais c'est vrai que c'est un autre goût. Et quand c'est une peut-être des randonnées qui m'a le plus marquée dans ma vie. On a fait l'Algonquin Peak, encore un nom amérindien, Algonquin. C'est un des hauts sommets des Adirondacks. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'eau et ça m'a beaucoup marquée parce qu'il y avait beaucoup d'arbres et beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'on marchait presque sur des mini-torrents tout le temps, en fait. Et moi qui suis obsessionnelle de l'eau, comme en atteste mon premier album, ça m'a vraiment marquée, voilà.
D'accord. Bon, pour les fans de lecture, je sais que j'ai lu quelque part que les fans de Joël Dicker, Harry Kéber et Nola voyagent dans l'Arridondax à un moment. Donc,
ah oui, d'accord, l'Arridondax. Ouais. Oui.
Voilà.
Je ne savais pas.
On peut retrouver peut-être cet univers dans son livre, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Voilà.
Je ne sais pas, ce n'est pas un écrivain que j'ai beaucoup lu.
Voilà, en tout cas, ça donne envie de voyager puis d'y aller, non? Toi, tu vas tous les ans. Donc,
oui, j'espère que ça vous donne envie, parce que ça vaut le coup. Après, bon, il faut prendre l'avion.
Et le train?
L'avion, le train, le bus, la voiture toujours, hein, quand même, au bout d'un moment, aux États-Unis. On est un peu obligé, malheureusement.
Donc, toujours à propos de ce premier album, sur la pochette... il est marqué, c'est de l'anglais ça, c'est 36 wheels.
Oui.
T'es fan de trains électriques ou
Non, en
non,
fait...
Non, ça n'a rien à voir. Hein.
Non, c'est simplement que la photo a été prise à Port Henry Station et devant une vieille carlingue, une vieille locomotive là, qui est là en exposition en fait. Et c'est vrai que c'est Connor Owens, le réalisateur du clip, de mes deux, d'ailleurs de trois de mes clips, qui a pris la photo. Et c'est vrai que je trouve que ça rend très bien, c'est très beau. Et j'ai voulu garder J'ai voulu garder l'inscription parce que je trouvais que ça avait du cachet, mais peut-être que quelqu'un qui travaille comme cheminot aux États-Unis trouve ça complètement ridicule, mais moi j'aimais bien.
Ça correspond à une taille des essieux dans des trains miniatures, c'est même pas les vrais trains.
Ah d'accord.
Ouais. Ça s'appelle l'échelle.
Vous m'apprenez quelque chose.
C'est l'échelle HO pour les fans de trains électriques que vous n'êtes pas a priori.
Je sais pas. J'ai pas eu beaucoup de jouets.
HO, voilà. Du jouet. Ouais, bref, non, c'est donc encore le train, le voyage encore.
Mais oui. Hein, c'est un peu la thématique aussi.
Un peu la thématique. Hein. C'est un road trip. C'est un road trip.
Road trip musical.
Musical.
Oui.
Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc cet album est sorti le 3 février 2023. Tu avais fait un petit financement participatif.
Oui, on est tous un peu obligés. Voilà. Hein, les artistes indépendants.
Parcours obligé. Mm-hmm. Voilà. Bon. Comme la plupart, c'est bien terminé.
Oui, ça s'est bien terminé. Ouais. Mais c'est vrai que j'en profite pour dire que merci à tous les contributeurs et contributrices de mon propre CD, mais aussi de tous les autres, en fait, parce que on est quand même beaucoup d'artistes indépendants et en fait, on est obligé de constater quand même que le niveau d'aboutissement de ce qu'on propose est très élevé. On va enregistrer dans des studios où c'est onéreux, avec plein de musiciens qu'on essaye de rémunérer aussi. On fait des clips, on fait des photos, on va chercher du soutien professionnel qui est parfois payant. Mmh. Et c'est un budget faramineux. Maintenant, il y a toute la communication aussi qui est très chère. Et on essaye de se faire accompagner. Voilà.
Ça ne paye pas tout. Hein.
Mais voilà. Donc oui, bien sûr, le financement participatif ne paye pas tout. Hein. Donc, juste pour dire que souvent, l'investissement financier, mais aussi le temps consacré, l'investissement personnel dans nos projets est énorme pour proposer des choses haut de gamme, en fait, très travaillées. Et souvent, pour un retour sur nous, comment on est après embauché, traité, payé, il y a un énorme fossé, en fait. Et je pense qu'il y a quand même peu de métiers où c'est comme ça, en fait, où le retour sur investissement est souvent très mauvais. Et on peut parler des années d'études aussi, parce que ça m'a tourmenté un certain nombre d'années, et j'en profite pour en parler, c'est-à-dire que j'ai étudié très longtemps le piano classique, tout ça pour après me retrouver jetée dans la nature, dans un milieu extrêmement difficile, ne serait-ce que pour gagner sa vie, en fait. Et c'est pas un mythe. On a beau avoir plusieurs masters, en fait, on n'est pas grand chose jusqu'à ce qu'on arrive à soi-même se faire sa place, et ça peut être très difficile et douloureux. Et j'en parle pas seulement parce que c'est vrai pour moi, mais parce que je sais que c'est vrai pour beaucoup de musiciens, musiciennes. Mmh.
Sur scène, plusieurs formules, toute seule, bien accompagnée.
Bien accompagnée quand je suis accompagnée, et parfois toute seule, oui.
J'imagine que trouver des dates, c'est un parcours du combattant.
Ça fait partie des choses difficiles à faire. Ouais. On doit, comme je disais, on est les auto-entrepreneurs de notre musique, de nos projets. Donc,
surtout dans un style qui est...
Pas forcément le plus vendeur.
Voilà, exactement.
Effectivement. Ouais. Oui, et puis donc c'est envoyer beaucoup de mails, aller déranger les gens, aller leur dire « Youyou, je suis là, écoutez-moi, programmez-moi », avec parfois de jolis retours et parfois aussi des programmations, heureusement, et il y en a. Et il y en a, et je ne m'en plains pas, parce que j'ai l'occasion de faire plein de belles choses.
T'aimerais en faire beaucoup plus, évidemment.
Non, c'est même pas pour dire ça, mais oui.
Et accompagner de préférence, encore mieux.
Oui. Ah, voilà. J'aime bien aussi jouer seul, c'est autre chose. C'est un autre... Ça dépend du cadre, en fait. C'est encore plus intimiste. C'est vrai que c'est la musique que je propose et... C'est pas une musique de fête, hein, si on est clair, mais en solo, encore plus, c'est encore plus intime. Donc, dans certains contextes, c'est beau, il y a vraiment un échange très brut avec le public, et j'aime bien aussi, mais évidemment, jouer en duo et en trio, alors ça, c'est encore ça donne une autre ampleur encore aux chansons, ça les étoffe, ça leur fait gagner en richesse. On peut parfois y perdre, mais pas toujours. La plupart du temps, c'est très agréable. J'ai même fait un tout petit peu en quartet, en musique actuelle, c'est classique, mais pour ma sortie de disque là, et c'était vraiment une belle aventure. C'est vrai que c'est bien de jouer aussi avec les autres pour ça, quoi, pour l'aventure humaine.
Bien, on parlait de concert, vu que l'heure tourne.
Oui, c'est vrai. Je parle.
Non, on parle. Et bon, d'abord on se déshydrate, mais pas ce soir, parce qu'on en boit de l'eau. Et on va annoncer les concerts de la semaine, tous ensemble, et puis chacun notre tour. Et puis, s'il y a quelqu'un, il y a un artiste qui t'a marqué, tu n'hésites pas à faire un petit commentaire. Moi, je commence à aller le vendredi 9 juin à la Tannerie à Bourg-en-Bresse. C'est l'EMA, l'école des musiques et des arts. C'est le concert de fin d'année.
Au Théâtre Odéon à Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvière, on aura Birelli Lagraine et Sylvain Luc.
Et à tout bout de champ, à Lyon, il y a Sophie Lecam.
À la MJC Mon Chat à Lyon, notre ami Tom Bird et sa release party avec tous ses potes, tous ses potes et ses copines aussi, qui viendront chanter, notre ami Laila Huissou par exemple, qui était venu la semaine dernière avec son nouvel album qui s'appelle Le Portrait. Très bien.
Salle Jean Monnet à Saint-Genis-Pouilly, Trois Cafés Gourmands.
Et on passe donc au samedi 10 juin. À la médiathèque de Mézieux, alors je ne sais pas comment il faut le prononcer, Amazigh ou Amazigh.
Non, c'est C'est un nom plutôt arabe.
Amazigh.
Au Moulin de Brennan, à Brennan, bah, Didier, super. Et c'est super.
Voilà. Dans le parc de Jarniou, dans le Rhône, dans le cadre du festival Blues à Jarniou, on aura Charles-Élie Couture, Mr. Matt et Midnight Burst.
Et au théâtre de l'Odéon à Lyon, donc le festival des Nuits de Fourvière, avec Vinicio Capossela, je ne sais pas comment on prononce.
Bien, très bien. Au château de Tréfort, Nico Sarro. Voilà.
À l'amphithéâtre Salle 3000 à Lyon, The Bootleg Beatles.
Et au parvis de la Tannerie, à Bourg-en-Bresse, Ultra Moderne et DJ Mystacus.
À Moracol, dans l'un des Vague Friends, avec notre ami Lunail.
Le dimanche 11 juin, à la salle polyvalente des Semailles à Rieux-la-Pape, c'est Fred Garcia et la pêche de la banane.
Non, la pêche et la banane.
Ah oui,
c'est moi qui.
Ouais. Donc voilà, la pêche et la banane.
Voilà la chorale de Fred Garcia.
Et à MCC Bourg-en-Bresse, Vincent Chanet, et c'est à 15h.
Ouais. Le lundi 12 juin 2023, à la MJC Montchat, les chansons primeur avec, attention, il y a un plateau de choix, Aurène Garance, Alexis HK, Renan Luce, et Clou, 3 jours pour écrire 16 chansons. Il en faudra bien.
Le mardi 13 juin, à tout bout de champ, à Lyon, Coche.
On tourne la feuille.
Mercredi 14 juin, le temps des noyaux à Bourg-en-Bresse, Anne-Lise Roche.
Ouais. Salle qui pourrait t'accueillir. Il y a une petite salle bien intimiste, comme tu les aimes.
Le titre me plaît.
Ouais. À tout bout de champ à Lyon, Coche.
Au Groupama Stadium à Lyon, c'est Royal Blood en première partie de Muse.
Vous n'êtes pas obligé là. Ouais. Vous n'êtes plus obligé. Et c'est toi qui diras.
Jeudi 15 juin, sur le parvis de la Tannerie, à Bourg-en-Bresse, il y a Airwaves.
Voilà. Avant de se quitter, on va écouter un dernier extrait de ton deuxième album, Port Henry Station, Tonio, c'est à toi.
C'est le morceau Ashes and Wood, un extrait donc de Port Henry Station, Clémentine Dubost.
It's been a long time since we've seen November. And it's real colors, like men and women, we've been working hard to build a world of flesh. We've traveled long distances, been buried in nonsense, though I have held you in deepest forests. Far in the night, we were home. Hours, everlasting dawns, frozen in countries of ashes and wood, not to be cold, we consume, and we travel long distances, we're buried in nonsense, though I will hold. In deepest fires, far in the night, we'll be home. Thank you. will see colors on the tree's leaves, with reasons to have children, to drink coffees from other sides of the earth, to wear some soft cheap wool, and we're buried in nonsense, and we travel on distance as though I will hold you in deepest fires. Far in the night we will hold, far in the night we behold.
Ashes and Hood, un dernier extrait de Port Henry Station, le dernier album de Clémentine Dubost.
Eh bien, il va être l'heure de se quitter.
Merci.
Clémentine Dubost, ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et puis du Terminus des Prétentieux.
Ben merci pour l'invitation et puis pour l'accueil.
Ben écoute, c'est un plaisir. Rappelons que tu as sorti donc, le 3 février, 2023, ton deuxième album, 6 titres, Port Henry Station, où quand et comment peut-on se procurer, sans oublier Bridges and Rivers, ton premier album?
Je suis présente sur tous les réseaux, partout où on peut écouter de la musique. Donc évidemment, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Vous pouvez me découvrir, me suivre et m'écouter sur ces réseaux-là. Il est possible d'acheter Port Henry Station sur Fnac.com et puis sur pas mal d'autres... D'autres magasins en ligne. Sur Instagram, il y a le lien vers la fan link là, donc, qui renvoie vers tous les supports où on peut écouter et acheter la musique. Et Bridges and Rivers est sur Bandcamp. Donc on peut là aussi le commander et l'acheter.
Et puis qui dit Internet, des sites Internet quand même.
Oui, il y a aussi mon site web.
Bah oui, quand même.
Oui. J'oublie de le mettre à jour pour les dates. Donc pour tout ce qui est annonce de date, il vaut mieux se référer aux réseaux sociaux. Mais il faut que je mette à jour mon site. Mais voilà, parmi les mille choses à faire de l'artiste, il y a ça aussi, faire du web design.
Voilà, www.clémentinedubost.com.
C'est ça, Clémentine Dubost.
Voilà, le plus important pour nous, tu seras en concert quand dans le coin hein. Pas tout de suite. Hein.
Je pars à la fin du mois pour les États-Unis. Là, mon dernier concert folk, en tout cas, il est dans le Vaucluse. Mon dernier concert de piano. Je joue en Allemagne en piano. Je joue aussi vers Aix-les-Bains, peut-être, en récital solo de piano.
C'est un peu loin, mais ça fait rien.
Donc, vers Bourg-en-Bresse, j'ai pas de date encore, mais j'espère la saison prochaine.
Mais oui. Allez, Tonio, bonsoir.
Bonsoir, Michel.
À la semaine prochaine, nous accueillerons, figure-toi, Muriel Dizon, coprésidente et choriste. Martine Benoît, choriste, et maman de Cyril.
Oui, mais ça me disait quelque chose.
Mais oui, le troisième co-animateur.
Ce serait pas, oui. Je pensais un peu à ça, mais je me disais...
Après le fils, la mère.
Bah oui.
Eh oui. Et Michel Ponceau, chef du groupe vocal Influence, qui fête en 2023 ses 20 ans d'existence. L'association propose une journée festive et en chanson et en chanté à Bourg-en-Bresse le samedi 23 juin 2023. Alors, outre les chorales qui feront le tour de la ville, un concert sera donné deux fois à l'Amphithorium à 18h30 et 21h. Rémo Gary, Michel Bernard et le chœur Influence, sans oublier Cléa Bressa-Bloom, qui accompagnera tout ce petit bon monde au piano. Voilà. Et comme tu le dis si bien, Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur le 90.0
de Radio B.
Clémentine, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
Bien le bonjour à Glenn Arzel et Thierry du bureau de Lilith.
Hein, ça marche.
Bon concert et puis à très bientôt sur Radio B.
J'espère, merci.
À bientôt.
Salut.